Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Cacca in percussione, cerca l'ingresso in area ancora, Cacca, davanti al portiere, Cacca, rete, Cacca.
Pallone che arriva, Trezeguet, Totti! Pirlo ancora, Pirlo di tecco, tiro, gol di Grosso. Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador, sei tutti noi Matador, ci provo con il testo,
e la rete, si gonfia la rete, Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 13e épisode de la deuxième saison du podcast Calcio et Pépé. C'est le deuxième volet de notre épisode 100% positif alors que l'actualité est chaque jour un peu plus lourde. Avant de commencer, il est temps de saluer notre ami Guillaume Maillard-Pacini. Salut Guillaume.
Bonjour Johan et bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs.
Alors Guillaume, avant de se lancer, on va écouter les messages de nos auditeurs. J'avais lancé cette idée sur Twitter la semaine dernière, on a reçu 7 messages audio, les voici.
Bonsoir à l'équipe de Calcio et Pépé, Enzo Djebeli, recruteur au stade de Reims. Je fais un petit message pour vous évoquer un de mes souvenirs de quand j'étais gosse. C'est un but de Maurizio Gans, Inter-Juve 96-97. Je crois qu'il y a une déviation de la tête de Zamorano. Du coup, Gans part dans la profondeur en 1 contre 1 face à Peruzzi, de mémoire, je crois. Il rate le premier 1 contre 1, il récupère le ballon, l'arbitre assistant ne lève pas son drapeau, il marque, Zamorano le célèbre, Gantz est à deux doigts de lui rouler une galoche, et on croit que le but est validé, mais en fait Colina estime qu'il y avait hors-jeu. Alors sur le coup, on voit très vite qu'il a raison, parce que l'arbitre assistant, je pense qu'il a estimé que c'était la balle longue qui avait directement hérité, ou alors que c'était la tête du Juventino qui avait dévié le ballon. Mais Gantz était vraiment hors jeu. Mais moi, ce qui m'a plus marqué dans mon enfance, c'est l'image de Colina qui prend la décision, qui assume, qui lève le bras comme quoi il y a hors jeu, et qui va surtout discuter avec le coach de l'Inter pour expliquer qu'il estime qu'il y a vraiment hors jeu, qu'il va s'agenouiller carrément. pour demander à serrer la main et à accepter la décision. Et c'est cette image presque humaine de Colina, normalement humaine, d'expliquer pourquoi il assume une décision qui m'a vraiment marqué quand j'étais petit et qui m'a aussi marqué à quel point Colina était pour moi un arbitre différent et quelque chose que j'admirais. Mais c'est vraiment un souvenir qui m'a marqué quand j'étais gosse.
Salut les gars, merci pour votre podcast. Super, Ketchup PP. Alors moi c'est Tipson et j'aimerais passer un petit coup de gueule au sujet de Dzeko. Dzeko à la Roma, malgré tous ses buts, je pense que c'était une grosse grosse déception. Je pense que malheureusement à cause de lui, notre jeu est trop trop stéréotypé. Alors autant au milieu de terrain avec sa conservation de balle et ses déviations, il est très important. Autant dès qu'on se rapproche du but, trop de contrôles ratés, de ratés, un jeu de tête trop mauvais pour sa taille. Malheureusement, on n'a pas réussi à passer un palier grâce à lui. Et si on veut vraiment passer ce palier, il faudra qu'on ait un attaquant plus tueur à la place. Merci à vous et bonne continuation. Soyez forts pendant le confinement.
Alors moi c'est Raphaël. Personnellement, je me suis fait pendant ce confinement la rediffusion du Milan-Udine de 2011 qui avait terminé en 4-4. Alors il est disponible sur Footballia et YouTube normalement et j'ai choisi ce match parce que ça me rappelle plein de souvenirs. Déjà, c'est une équipe du Milan avec les joueurs du dernier titre de Serie A avec un Pato en feu, Thiago Silva, Seedorf, Gattuso, Robinho, Ibrahimovic, Nesta. Et une équipe de l'Udine assez folle aussi, avec Alexis Sanchez, Asamoah, Benatia, Zapata, Handanovic, Di Natale, bien sûr. Donc déjà, les souvenirs pour cette époque, ces joueurs, mais aussi et surtout, c'était pour ce match. 8 buts, une équipe d'Udine vraiment forte, bon, qui avait profité de la nullité de Bonera, c'est sûr. Et un beau Milan, avec Pato qui met un doublé, Cassano qui entre, qui fait deux passes décisives en 20 minutes, Ibrahimovic qui égalise à la 93e. Bref, c'était un super match à regarder, une super époque et ça me rend bien nostalgique de ce calcio-là.
Salut, c'est Anthony. Moi, je voulais faire un focus sur un match de mon équipe favorite, l'AS Roma, qui, saison 2009-2010, a frôlé le titre. Après un début de saison hyper compliqué, changement d'entraîneur, elle se retrouve première à 5 journées de la fin en profitant d'un faux pas de l'Inter de Mourinho. Du côté de Florence, elle bat l'Atalanta et une semaine après, ben, le derby. Donc tout ce que ça représente et particulièrement en cette fin de saison où la Roma jouait le titre. Donc premier acte assez compliqué, 1-0 pour la Lazio, but de Tommaso Rocchi. À la mi-temps, Ranieri fait le choix peu commun de sortir Etotti et De Rossi pour respectivement Jérémy Ménez et Rodrigo Taddei. Et la Lazio a la balle du 2-0 sur un penalty de Floccari. Repoussé par Julio Sergio. Quelques minutes après, penalty pour la Roma cette fois, égalisation de Vucinic qui, quelques minutes plus tard, donnera la victoire à la Roma sur un coup franc surpuissant. Donc, vraiment un match marquant de par ce que ça représente et en plus le scénario. Dommage qu'une semaine après, ben, la Roma perd incroyablement à la maison contre la Sampdoria et dit adieu au titre. Voilà, merci.
Salut, c'est Martin. Alors, je voulais vous parler d'un joueur par ligne qui a confirmé mes très bonnes impressions que j'avais de lui la saison passée en Serie A. Donc, on va commencer par Luca Pellegrini qui réalise une excellente saison. C'est un latéral très offensif avec 4 passes décisives, qui se positionne très haut sur le terrain, qui n'hésite pas à rentrer à l'intérieur pour déséquilibrer les défenses adverses. Alors, au milieu, j'ai choisi Barella qui m'apporte toute la vision d'un relayeur moderne, donc dans la transition, le positionnement entre les lignes, mais qui garde quelques notions du 8 type des années 2000 qui le rend très différent des autres. Il doit encore malgré tout progresser sur son pressing parfois un peu trop agressif qui lui a provoqué des cartons inutiles comme celui contre Naples à São Paulo. Et le dernier, je vais prendre Federico Chiesa, mon chouchou actuel en Serie A, qui avait débuté plutôt bien la saison avec ce duo accompagné de Ribéry dans le 3-5-2 de Montella. Mais il s'est effacé avec la FIO progressivement, malgré tout il conserve un bilan plutôt correct. Mais il soulève néanmoins une crainte pour tous les fans de la Viola, c'est est-ce que l'axe FIO-Juve ce mercato va-t-il refonctionner et voir la Viola se séparer de son deuxième chouchou de la Primavera depuis Bernardeschi? On sait que le scandale qu'il y a eu autour des supporters florentins avec Bernardeschi qui n'espère pas revivre une énième désillusion tragique.
Bonsoir à vous deux, bonsoir. Tout d'abord, merci pour l'émission, c'est génial ce que vous faites. Et donc, voici mon observation sur le foot italien. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi, finalement, qu'est-ce qui fait que le foot italien, par rapport aux scènes européennes, est moins physique. Quand je pense au match, par exemple, la Juve contre l'Ajax, notamment au match retour, et il y a clairement une baisse physique durant le match. Et je pense que c'est très, très révélateur des équipes italiennes au sein des compétitions européennes face à d'autres équipes de d'autres pays qui, eux, n'ont pas ce défaut physique. Et c'est ma question, quelque part. Qu'est-ce qui fait que finalement que le foot italien a du mal finalement à garder une certaine endurance et à être compétitif au niveau physique par rapport aux autres championnats. Voilà. En tout cas, merci à vous. J'espère que mon observation, peut-être, vous, enfin, en tout cas, ma question, vous pourrez m'y répondre. Et puis voilà. Bien, prenez soin de vous. Restez chez vous. Et merci encore.
Bonjour, c'est Félix. Moi, je suis né à l'an 2000 et du coup, j'ai pas trop connu le foot italien avant. Et ce serait bien si vous feriez un épisode de 2 heures où vous, avec je sais pas, un intervenant, vous racontez, vous expliquez comment a eu lieu la chute entre guillemets du football italien par rapport au football anglais et espagnol qui sont passés sur le devant de la scène durant ces 30 dernières années. Parce que ça m'intéresse beaucoup. Voilà.
Si vous voulez envoyer vous aussi vos messages vocaux, vous pouvez le faire sur WhatsApp au numéro suivant. Attention, prenez un petit crayon, un petit morceau de papier, un bloc-notes, une feuille volante, un peu ce que vous voulez, une carte Panini dans le dos, bien sûr. Surtout pas sur la figurine préférée de votre joueur préféré. Le numéro, c'est le 07 68 08 17 27. Envoyez donc vos messages vocaux, on en mettra d'autres dans le prochain épisode. Je le disais, Guillaume, on fait aujourd'hui notre volume 2 des choses positives observées depuis le début de la saison en Italie. Vous pouvez d'ailleurs réécouter le premier volume qui a été publié il y a une quinzaine de jours et où on a évoqué pêle-mêle l'Atalanta en C1, Francesco Caputo, Lorenzo Pellegrini, le but de Dybala contre l'Inter, les promus et leur volonté de produire du jeu, le suspense en haut du classement, les nombreux buts et le spectacle cette saison en Serie A, les nouveaux venus qu'on a découverts, les premières semaines de Franck Ribéry à la Viola, et aussi les bons matchs de la Lazio face au Gros. Ça, c'était le premier volume des choses positives observées depuis le début de la saison.
Oui.
On entame donc, Guillaume, le deuxième volume. C'est très dense, plein de belles choses à voir encore et à évoquer. Aujourd'hui, on commence, puisqu'on n'en est pas encore parlé, avec le retour de la nationale au premier plan.
Oui, parce que tu le sais, on a beaucoup souffert ces dernières années. La blessure contre la Suède et la non-qualification en Coupe du Monde est restée ouverte pendant très longtemps. D'ailleurs, elle n'est toujours pas refermée, donc c'est toujours compliqué d'en parler. Mais c'est vrai que depuis l'arrivée de Roberto Mancini sur le banc de la nationale, on revoit du jeu, déjà pour commencer, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'il a réussi à créer un groupe, au-delà d'avoir créé une équipe, c'est-à-dire qu'il y a un groupe qui adhère totalement à ses idées, à son discours, évidemment facilité aussi par l'envie de revanche de la part des joueurs aussi qui ont connu voilà, c'est cette tâche qui restera dans tous les cas sur leur CV, parce que ne pas avoir l'Italie à la Coupe du Monde, c'est une tâche indélébile. Mais c'est vrai que voilà, Mancini a su, au-delà du jeu, recréer un groupe et un esprit autour de la nationale. Et ensuite, évidemment, ce qui est important aussi, c'est les résultats. On parle quand même d'une nationale qui a enchaîné 11 victoires de suite. C'est un record dans l'histoire. Et on avait aussi, avec ces résultats, 37 buts marqués, 4 encaissés. Alors, bon, je sais qu'il y a toujours des mauvaises langues qui disent, bon, le groupe n'était pas les plus durs. C'est pas faux, mais il y avait quand même la Finlande, la Grèce, et on sait
Il y
aussi,
avait la Bosnie aussi, la Bosnie c'est
aussi
quand
la
même
Bosnie,
une
exactement,
assez belle équipe, hein.
exactement. Et je sais qu'il y a des personnes qui disent, mais la nationale, oui, mais la nationale est généralement dans son histoire, et tu le sais aussi bien que moi, on avait toujours du mal contre les petites équipes. Je me rappelle le match, par exemple, aux îles Féroé, gagner Ricrac. Enfin, voilà, la nationale, dans son histoire, dans son ADN, a toujours eu beaucoup de mal contre les petites équipes. Et c'est vrai que là, pendant toute cette phase qualificative à l'Euro, elle a été sérieuse, appliquée, elle avait envie de remporter tous ses matchs, sans exception, jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'elle est arrivée à ce record qui est historique. Voilà, c'est évidemment dû à l'arrivée de Roberto Mancini et aussi aux joueurs voilà, qui forment un groupe. Et j'ai envie de te dire, ce que j'ai noté aussi dans mes notes, c'est que le report de l'Euro, pour un groupe aussi jeune. Alors, Mancini, j'ai lu son interview récemment à la Gazzetta qui disait c'est vrai que dans notre dynamique, aller à l'Euro sur 11 victoires de rang, voilà, il y aurait eu peut-être un effet euphorique, jouer à Rome, voilà, il y aurait eu vraiment un effet populaire, hein, autour de la nationale qui aurait été agréable et une force aussi pour elle. Mais le report d'un an de l'Euro avec un groupe aussi jeune, tu vois, par exemple, Chiesa aura un an de plus, beaucoup de joueurs vont pouvoir mûrir, pouvoir grandir,
Barella,
évidemment, Barella,
Lorenzo Pellegrini, tu auras le
et
retour de Zaniolo qui était blessé.
Zaniolo qui n'aurait pas joué l'Euro. Mais c'est vrai que voilà, ce report d'un an voilà, va permettre à la nationale de grandir encore, de se connaître encore mieux, et à Mancini de peaufiner quelques détails. Voilà. Espérons aussi trouver un numéro 9. Alors certes, Immobile a réalisé une saison exceptionnelle en Serie A, mais en national, ça va un peu mieux, mais il ne s'est pas encore totalement installé. Donc voilà, mais en tout cas, c'est vraiment un bon point de cette saison italienne, et ça redonne le sourire. On a besoin en ce moment, c'est de repenser à la nationale.
Oui, et puis tu parlais du nombre de buts, 37 lors de cette phase
oui.
de qualification. Et effectivement, c'est quand même pas dans les habitudes de l'Italie de voir, par exemple, si tu prends ces 10 matchs de qualification, tu as quand même 1-6-0, 1-5-1 de mémoire et 1-9-1. 1-5-0 et 1-9-1, je crois que c'est ça. 5-0, 9-1 et 6-0. Donc c'est OK, les adversaires sont assez faibles, l'Arménie, le Liechtenstein, etc. Mais ça, des équipes comme ça, tu en as dans tous les groupes aussi. C'est pas pour autant que les grandes sélections s'imposent toujours sur des scores aussi larges face aux toutes petites nations. Et c'est vrai que c'est pas dans les habitudes de l'Italie dans son histoire. Et là, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir parce que tu sens un groupe qui est peut-être très différent de ce qu'on a connu historiquement au niveau de l'Italie, des joueurs qui se gèrent
Oui.
peut-être un peu beaucoup, parfois un peu trop. Et puis là, tu sens vraiment la fougue de la jeunesse. Alors c'est Il n'y a pas que des jeunes, mais c'est quand même un groupe qui est rajeuni, parce que si on prend les 23, les 18, peu importe, on prend pas que le 11 titulaire, mais on parlait tout à l'heure de joueurs comme Pellegrini et Zaniolo, qui sont pas titulaires, clairement, mais eux vont avoir envie de prouver, d'essayer de gagner leur place, je trouve que c'est un peu moins établi, en fait. Par exemple, le 11, tu sens que tu peux interchanger un peu plus facilement les différentes positions, et que si Barella est dans un jour sans, bah tu peux mettre un joueur comme Pellegrini sans trop de soucis en défense aussi, par exemple un joueur comme Mancini. Alors là, évidemment, il n'y a que trois romanistes qui me viennent, mais
Par
un joueur comme
exemple, aussi
Mancini,
ouais, comme Tonali au milieu, par exemple, qui va
oui, Sandro
grandir aussi pendant
Tonali,
un an, hein.
exactement. Voilà, donc tu as pas mal de joueurs qui vont prendre encore un peu d'expérience, de Coupe d'Europe, par exemple un joueur comme Tonali, on peut l'attendre à un niveau supérieur la saison
Bien
prochaine
sûr.
dans un club plus important. Donc tout ça va renforcer aussi sans doute un peu cette équipe d'Italie qui sera peut-être pas sur la même dynamique de résultats, mais qui en tout cas en termes d'expérience et de vécu aura peut-être un peu plus de concentration, de talent un peu plus développé entre guillemets en termes de mental, d'habitude, de routine à jouer des grands matchs, à jouer des grandes compétitions, etc. Et ça, c'est forcément ultra positif. On verra ce qu'il adviendra de cet Euro 2021. Du coup, c'est
Oui.
un peu bizarre de le dire comme ça maintenant, mais oui, de cet Euro 2021 qui aura donc lieu l'été prochain. Et on verra d'ici là comment s'organisent les qualifications à la Coupe du Monde 2022 aussi. On verra comment s'organiseront les fameuses plages internationales pour jouer des matchs, la Ligue des Nations aussi. On verra comment tout ça va s'organiser dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Guillaume, deuxième point qu'on voulait mettre en avant, c'est le public en hausse dans les stades. Et ça, on sait que c'est un peu le nerf de la guerre depuis pas mal d'années, de ramener un petit peu les gens au stade qui étaient partis pour diverses raisons. Il y a certaines fois un peu un manque de spectacle dans les années passées, il y a
Oui.
un peu de violence aussi, des stades un peu vétustes aussi. Voilà, il y a pas mal de facteurs qui expliquaient un désamour aussi parfois.
C'est
Il y a
vrai.
quand
Et
même
ça
pas mal de
rejoint un peu
facteurs.
aussi le point qu'on avait développé dans le premier volume de ce podcast, on va dire positif, par rapport au spectacle qu'on voit sur le terrain. Et c'est vrai que ce retour du public, et aussi lié à cette volonté aussi de certains clubs, de certaines équipes, de proposer du spectacle sur le terrain et pas forcément la jouer petit bras. Donc ça aussi, ça joue. Après, on sait que l'Italie, historiquement, a un rapport très particulier et très, très fort avec le football. Donc à la fin, j'ai envie de te dire, tu peux peut-être faire une pause 1 ou 2 ans, mais à la fin, le calcio reste le calcio. Donc voilà, les tifosi sont de retour. Alors j'ai noté, toi, une petite stat. Alors évidemment, elle est prise sur la phase
Vas-y,
d'aller.
Opta Guillaume, on t'écoute, Opta Guillaume.
Alors, figure-toi qu'elle est prise évidemment sur la phase d'aller, parce que la phase retour n'est pas encore finie. Donc en attendant et même si elle reprend, ce sera probablement un huis clos. Donc on va dire que les stats seront un peu faussées, mais en tout cas, sur la phase d'aller, on a quand même une hausse en général dans les stades italiens de plus de 6,4%. Donc voilà, c'est pas rien. La première équipe de ce classement, c'est l'Inter. Alors, faut dire déjà que San Siro ou Giuseppe Meazza, ça dépend des préférences, mais est évidemment plus grand, par exemple, que l'Olimpico ou que le Stadium de Turin. Donc,
C'est le plus grand stade d'Italie.
voilà, donc on peut mettre forcément plus de personnes. Mais en tout cas, l'Inter, ça fait quand même quelques années que l'Inter, malgré les difficultés, le public est toujours présent. Alors, encore plus maintenant que Conte est arrivé et que la Ligue des Champions est de retour depuis maintenant 2 ans. L'Inter, en moyenne, faisait sur la phase aller 63 697 personnes. Donc, c'est quand même
Ce qui est pas mal quand même,
ce
hein.
qui est vraiment pas mal. Et c'est la deuxième année consécutive que l'Inter dépasse les 60 000 personnes de moyenne. Donc voilà, au-delà des gros matchs, la Juve, le derby contre Milan, la Roma, la Lazio, il y a quand même une moyenne assez stable pour l'Inter. Et pour le voisin, l'AC Milan, pour lequel les résultats sont toujours pas flamboyants, toujours pas Ligue des Champions, instabilité du projet, les joueurs qui partent, qui reviennent. Alors il y a eu le retour d'Ibrahimovic en deuxième partie de saison, mais c'est vrai que les résultats sont quand même toujours très mauvais par rapport à l'Inter, par exemple. Mais en moyenne, quand même, 53 917 personnes. Donc ça reste quand même aussi un joli score hein, pour une équipe qui performe pas.
Bah surtout Guillaume que tes stats, comme tu l'as expliqué, c'est la phase aller.
Oui,
Donc c'est un peu avant le quand même un début de renouveau entre. Enfin, renouveau, c'est un
exactement,
peu bien
exactement.
renouveau.
Il faut comprendre qu'il y avait Gianpaolo au début de saison qui s'allait vraiment pas. Ensuite Pioli est arrivé et c'est vrai qu'avant le retour d'Ibrahimovic qui a donné un peu un élan et un souffle nouveau à cette équipe. Voilà, c'est vrai que faire 50 000 personnes de moyenne. Pour des résultats pareils, c'est quand même très bien. Et disons que c'est quasiment le seul bon point de ces dernières années pour Milan, c'est que les supporters ont tellement envie de ramener ce club-là où ils le méritent, que voilà, ils sont toujours là au stade malgré les désillusions qui se succèdent au fil des années. Et en troisième position, la Juve, qui fait 39 740 personnes de moyenne. Donc, comme je le disais, le stadium est plus petit, évidemment, que San Siro, c'est quasiment la moitié. Hein. Donc voilà, mais c'est vrai qu'entre abonnement et billets achetés uniques pour le match, il y a quand même quasiment 40 000 personnes pour la Juve.
Autour de remplissage sur l'année, on doit être pas loin des 95%, je pense,
Oui,
du côté
voilà,
de la
c'est
Juve.
assez logique pour une équipe qui gagne tout et dont l'hégémonie est totale depuis 8 ans en Italie. Et voilà, encore cette année, bah, les Tifosi ont répondu présent pour voir l'équipe de Sarri, qui a aussi déçu, mais les supporters ont été là. Et du côté de Rome, voilà, la ville que tu connais bien, Johan, sache que la Lazio de Simone Inzaghi a dépassé la Roma sur la phase aller. La Roma, elle a 35 837 personnes de moyenne à l'Olympico, alors que la Lazio est quasiment à la barre des 40 000, elle a 39 375. Voilà, sur le derby romain, donc la Lazio dépasse la Roma. Alors, c'est un peu aussi l'histoire du classement, j'ai envie de te dire, et de la saison. C'est la Lazio qui fait quasiment la saison de sa vie, on va dire, récente. Parce que ça fait très longtemps qu'elle ne joue pas le titre. Mais c'est vrai que voilà, à Rome, la Lazio est passée devant la Roma, Johan.
Exactement, et c'est ce qu'on expliquait dans les podcasts précédents, l'enthousiasme retrouvé du côté de la Lazio à tous les étages. On a mis un petit peu de côté la guéguerre avec le Tito, le président du côté de certains tifosi, et c'est vrai que l'ambiance globalement est quand même très
plus saine, hein.
chaleureuse,
Ouais,
ouais, plus saine, puis très chaleureuse avec les joueurs de manière générale depuis le début de la saison, et on sent aussi que les joueurs sont galvanisés par la pression, mais la pression très positive mise par les tifosi à domicile qui aident grandement aussi au résultat. Troisième chose qu'on voulait mettre en avant, Guillaume, Cristiano Ronaldo. Et oui, on va peut-être pas banaliser non plus tout ce que fait Cristiano Ronaldo.
Exactement, exactement. Mais c'est vrai qu'on en parlait en off quand on s'est vu la dernière fois. Mais c'est vrai que parfois, on a tellement. Alors, Ronaldo, mais c'est l'éternel débat. Mais ça, on a tendance à banaliser aussi les performances de Ronaldo parce que chaque année, il dépasse la barre des 20 buts. Mais il faut aussi se dire que l'âge avance, mais que Ronaldo, mine de rien, est comme le bon vin. C'est-à-dire que plus il vieillit, mieux il performe, ou du moins il reste quand même un niveau très, très stable et quand même il a porté à bout de bras la Juve. On a souvent parlé dans les podcasts précédents et je vous invite à les réécouter s'il n'a pas été fait, mais c'est vrai que Ronaldo, alors que la Juve quand même parfois titubait au niveau du jeu et sur le terrain, Ronaldo a tout reperformé. C'est tout bête, mais il a marqué pendant 11 matchs consécutifs en Serie A.
Ouais.
Donc c'est un record, c'est vraiment le leader technique de son équipe, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est 25 buts en 32 matchs, toutes compétitions confondues, pour l'instant, donc c'est quand même un joli score, et voilà, moi je ne voulais pas qu'on banalise aussi ses performances, ses buts, évidemment le but qui me reste un peu comme ça dans la tête, c'est son but à Gênes contre la Sampdoria, tu te souviens, il y a ce coup de tête… Où il est monté, hein. Il est resté dans le ciel pendant au moins 2 minutes 30.
C'est CR7, mais avec le R ailleurs, quoi.
Exactement, c'était vraiment un but incroyable. Et voilà, on se rend compte que mine de rien, c'est un joueur qui ne baisse jamais sa garde, il a toujours envie et il ne lésine sur rien. C'est-à-dire que, voilà, en Italie, moi j'aime bien cette expression de panciapiene, c'est-à-dire ne plus avoir faim, voilà, tout gagner, toutes les coupes, tous les ballons d'or. Ronaldo, il manque rien à sa carrière. Donc, c'est vrai qu'à un moment, il arrive à un certain âge, voilà, il serait quasiment en droit de se dire, je vais peut-être relâcher un peu le pas et me calmer. Mais non, il est toujours là, qu'un niveau d'exigence qui est suprême, élevé. Et tous les joueurs de la Juve, dans toutes leurs interviews, voilà, te le disent, c'est que Ronaldo est vraiment un exemple pour tout le monde. C'est un peu, comment dire, un peu populaire de dire ça, mais c'est vraiment le premier à arriver à l'entraînement, le dernier à partir. Et les joueurs sont aussi à rester souvent surpris après un match ou quand il leur explique qu'il rentre chez lui, puis il fait la climatérapie, il fait de la récup. Voilà, c'est Ronaldo. Et malgré l'âge, malgré tous les trophées qu'il gagne, il continue, il continue, il continue, jusqu'à probablement atteindre l'objectif pour lequel il arrive à la Juve, la Ligue des Champions. L'année dernière, voilà, il avait fait ce qu'il avait pu contre l'Atlético. Après, c'était pas passé contre l'Ajax. Il avait marqué encore tous les buts, hein, entre l'aller et le retour contre l'Ajax. On verra bien cette année si la saison reprend, ce qu'il fera contre Lyon. Mais en tout cas, voilà, moi je voulais pas banaliser les performances de Ronaldo.
On sait que Ronaldo, c'est une très très grande force de la Juve et c'est aussi une grosse limite. Alors je m'explique. La grande force, c'est évidemment déjà sur le terrain. Tu en as parlé, tous les buts qu'il a marqués, des buts décisifs, des buts impressionnants, des buts qui donnent confiance à ses coéquipiers, évidemment, des buts décisifs en termes de résultats purs. C'est aussi une très grande force parce que il amène quelque chose dans un vestiaire et un degré d'exigence que même si la Juve a, en fait, ce degré d'exigence au quotidien, puisqu'on sait que c'est le club en Italie qui a ce côté de travailleur, de beaucoup travailler, de beaucoup mettre en valeur les justement ces valeurs de travail, d'humilité au quotidien, de remise en question, etc. Mais lui amène un degré encore plus fort de dans cette exigence là au quotidien. Et c'est vrai que tous les joueurs qui parlent de Ronaldo et qui l'ont connu à la Juve, on peut penser à des joueurs comme Matuidi, comme Eddie Benatia, pardon, comme beaucoup d'autres qui sont intervenus sur différents médias pour parler de l'éthique de travail de Cristiano Ronaldo, demeure impressionné par le volume de travail qu'il est capable d'avoir au quotidien. Et la grande faiblesse, entre guillemets, de ça, c'est que t'es trop dépendant d'un seul joueur. Et on le voit dans le jeu. Alors là, on parle vraiment strictement en termes de jeu. Puis on peut aussi parler un peu en termes de performance, parce que quand tu es autant dépendant d'un joueur, il faut déjà qu'il arrive à faire toute la saison sans être blessé. On sait que Ronaldo prend de l'âge aussi, donc même s'il a une énorme éthique de travail, on verra comment son corps va répondre encore dans les prochains mois, prochaines années. Et puis il y a aussi le fait que, en fait, Ronaldo, pour le but ultime de la Juve, qui n'est pas le Scudetto, qui ça, c'est maintenant c'est acquis, c'est une normalité entre guillemets.
Oui, il a pas été recruté pour ça.
Voilà,
c'est
exactement.
Évident, ouais.
Mais pour le but ultime de la Ligue des Champions, Ronaldo a pas le droit de passer au travers lors d'une seule rencontre. Parce que derrière, c'est très compliqué pour la Juve de rattraper le coup. Donc c'est à la fois une énorme force et à la fois aussi une grande faiblesse, parce que aujourd'hui l'effectif de la Juve, si on veut comparer à ce que Ronaldo avait du côté du Real, il était beaucoup mieux entouré au Real Madrid parce que les joueurs étaient dans leur prime. Voilà, et puis même sur les côtés, quand tu avais Marcelo et Carvajal sur les côtés, c'est un autre niveau que ce qu'on a aujourd'hui à la Juve. Donc il était beaucoup mieux entouré avec des joueurs qui étaient, ce que je disais, dans leur prime en termes de compétences, de connaissances de leur niveau, de tout ce que le haut niveau nécessite. Bon, bah, on verra comment ça se passera à la Juve, mais c'est vrai que la venue de Ronaldo a aussi engendré un peu la paupérisation de l'effectif. Et donc, c'est devenu un peu une faiblesse d'être autant dépendant de Ronaldo. On verra dans les semaines à venir, mais lui...
Il y a deux joueurs qui ont porté la Juve cette saison. Il y a Dybala, dans un premier temps, qui a vraiment sur quelques fulgurances.
Une dizaine de journées,
ouais,
je pense.
Voilà, et ce dernier but aussi contre l'Inter dans le choc. Mais Dybala a porté un certain temps la Juve. Mais c'est vrai que Ronaldo, sur la continuité... Je me rappelle des buts à la dernière seconde, un penalty, je crois que c'était contre le Genoa. Enfin, il n'est jamais passé au travers, il a toujours porté la Juve. Alors que tu te souviens, il y a des matchs vraiment où le contenu était très faible, où on s'est dit, ouais, la Juve ne peut pas se sortir. Et à la fin, il sortait du bois alors qu'on ne l'avait pas vu, et il marquait toujours ce but. Et c'est vrai que Dybala, lui, ça a été un moment, et après, c'est un peu, elle a un peu baissé, ralenti le rythme. Et ensuite, Ronaldo, lui, a repris le flambeau et il ne s'est pas arrêté pendant, voilà, j'ai dit, 11 buts. 11 matchs de suite avec au moins un but. Voilà, c'est les deux joueurs vraiment qui, dans le marasme parfois un peu collectif et du jeu qu'on a pu voir cette année de la Juve de Sarri, c'est les deux joueurs qui ont porté à peu près la Juve.
On passe au point suivant, et c'est le bon cru des gardiens. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas assez dans nos podcasts. On l'évoque de temps en temps quand il y a des performances vraiment marquantes qui nous viennent à l'esprit d'ailleurs. Mais on a quand même cette saison encore, parce que c'est quand même le cas, un cas assez régulier, ça, Guillaume, de gardiens qui performent vraiment en Serie A. Et là, c'est vrai que on a au moins une dizaine de gardiens que je trouve, enfin qu'on trouve d'ailleurs, très performants et qu'on voulait mettre en avant.
Totalement, on a un joli cru. Alors on peut faire quelques noms. On a Donnarumma évidemment à Milan. Alors là aussi, parfois un peu un Ronaldo, tu vois. Alors, c'est pas le même truc, mais Donnarumma n'a que 21 ans. Alors qu'on pourrait penser que, comme il a plus de 150 matchs, il est plus vieux. Et non, Donnarumma est encore un gamin. Donc, il a encore toute sa carrière devant lui. Mais c'est vrai qu'il a un...
Tiens, ça me fait penser à... Dis-moi. Je me permets de te couper. Ça me fait penser à quelque chose. Ce serait intéressant qu'on regarde. Je sais pas si ça a été fait dans la presse italienne ou peut-être qu'il faudrait qu'on le fasse nous. Mais de voir à 21 ans où en était Maldini en termes de nombre de matchs professionnels.
Je crois, alors je ne veux pas me tromper, mais je crois que Donnarumma est même en avance sur Maldini.
Ouais, il me semble. Ouais, il me semble, hein.
Après, alors, c'est un gardien, tu me diras, bon, il a peut-être moins de chances d'être remplacé, comme le poste est un peu plus sûr. Mais en tout cas, il me semble l'avoir lu plusieurs fois, c'est que Donnarumma est en avance sur... Je crois qu'ils avaient fait les statistiques, tu sais, au 150e match.
D'accord.
Et, il était légèrement en avance sur Maldini. C'est dire quand même... Enfin voilà, tu vois, là aussi parfois on oublie, mais c'est un gamin dans notre...
Ah, c'est incroyable, hein. 150 matchs, plus de 150 matchs pro à 21 ans, c'est bluffant.
Et voilà, et tu vois, pour moi, alors on va parler d'autres gardiens juste après, comme Meret, comme Sirigu, comme d'autres. Mais tu vois, pour moi, la différence qu'il y a entre Donnarumma, Meret, parce qu'on a souvent parlé aussi pour le poste en national, c'est que pour moi, Donnarumma peut vraiment être un folie classe du poste. C'est-à-dire qu'il peut être vraiment au-dessus de tous. Meret peut devenir un très grand gardien parce qu'il a beaucoup de qualités. Mais Donnarumma, voilà, la différence pour moi, c'est que c'est un foyer classe. C'est-à-dire qu'il a vraiment ce truc qui fait qu'il est au-dessus. Mais il va falloir qu'il prouve et qu'il garde aussi la tête sur les épaules. On sait que ces dernières saisons, parfois, il a eu tendance aussi à se relâcher un peu mentalement. Il y a eu quelques problèmes aussi avec le préparateur des gardiens à Milan. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il a vraiment les qualités pour être au-dessus de tout le monde. Les autres gardiens, évidemment. Alors, on peut parler des Italiens. Alors, on a Sirigu, qui est un peu plus âgé, même beaucoup plus âgé que Donnarumma, mais qui réalise encore une saison très bonne au Torino. On a Meret.
Alors qu'il n'est pas aidé par sa défense, hein. Sirigu, cette année, c'est...
Oui, disons
c'est
qu'il
compliqué.
Est... Ouais, et c'est aussi pour ça qu'il fait, par exemple, peut-être plus d'arrêts que d'autres.
Ouais.
C'est vrai que Sirigu, cette saison, n'est pas aidé, mais est quand même au niveau de la Serie A.
Très largement au niveau.
Ouais, évidemment, il y a Strakosha. Alors, parfois, Strakosha, à la Lazio, avec le pied, je ne vais pas te mentir, il fait un peu peur. Sur 2-3 relances où il est un peu juste, Et je sais que je vois que l'Olympico aussi parfois retient son souffle, mais Strakosha, ça devient aussi un très bon gardien. Hein. Alors, elle a la
tu sais que j'arrive pas à...
Attends, Flamé pour Strakosha.
Bah, j'arrive, mais c'est pas le seul, hein, mais j'arrive pas. En fait, c'est pas spécialement à m'enflammer, parce qu'il est effectivement capable de très grandes choses, mais j'arrive pas à savoir quel est son pic, quel est son plafond de verre, jusqu'où il peut aller. Si c'est ce qu'on voit actuellement, je suis pas sûr qu'il puisse aller beaucoup plus haut, par exemple. Et je me fais la même remarque, par exemple, pour l'autre gardien du club, du deuxième club de Rome, la Roma, Paolo Lopez. Alors, il est là depuis moins longtemps en Serie A. Mais tu vois, c'est des gardiens où j'ai du mal à voir un peu le pic et où je me demande s'ils peuvent faire beaucoup mieux que ce qu'ils font actuellement, par exemple.
Alors,
là où, tu vois, ouais. Par exemple, Meret, je suis à peu près persuadé qu'il peut aller encore
aller
beaucoup
plus
loin.
Ouais, évidemment. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté-là pour. Disons que Strakosha et Paul Lopez, enfin, un parallèle des vieux clubs de Rome, sont deux bons gardiens. Après, ils peuvent venir des très grands gardiens. Voilà, je pense qu'il y a des vagues. En tout cas, Strakosha, cette saison, sur 3-4 matchs, moi, j'ai des souvenirs d'arrêt qui sont quand même assez exceptionnels. Mais je vois aussi ce que tu veux dire sur jusqu'où. Après, ce qui serait intéressant aussi, si tu vois, il a la Juve dans la Ligue des Champions, probablement.
Oui.
Hein, je vois pas le cataclysme. Ça va être intéressant aussi de voir sur la scène européenne. Si en C1 il a aussi le niveau pour répondre aux exigences que requiert une compétition. Les autres gardiens, alors j'ai noté, alors tu me diras si on oublie, mais Mousseau aussi,
ouais.
qui est pas mal.
Me plaît beaucoup, qui est assez complet lui. Hein. Alors pas comme d'autres, hein, déficience un peu sur la technique jeu au pied. Par contre, je le trouve très très complet dans tous les secteurs entre guillemets ou toutes les valeurs défensives que doit avoir un gardien. Vraiment, je suis assez épaté parce qu'il avait déjà fait une très bonne saison l'année dernière. Tu te souviens, on en avait quand même parlé.
Oui.
Et là, j'ai l'impression que c'est encore plus fort que la saison dernière, qu'il est encore plus décisif et surtout qu'il n'y a pas spécialement de match où il passe au travers.
Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait l'Inter qui était dessus peut-être pour en faire la doublure d'Andanovic. Peut-être aussi l'AC Milan sur ses traces, mais ça montre aussi que c'est un joueur qui est suivi. Et voilà, c'est pas parce qu'il joue dans un club qui parfois on oublie aussi, hein, faut se mentir que c'est un peu compliqué de suivre Udinese, mais
ils font tout Guillaume aussi pour qu'on les oublie. Hein.
c'est pas faux non plus, mais c'est vrai que tu vois, on pourrait à part Depaul et Fofana, voilà, c'est vrai qu'on regarde pas tous les dimanches, on va pas se mentir, Udinese, mais en tout cas.
Non, mais il y a quelques bons. Franchement, totalement. Dans cette équipe, moi je trouve, enfin, ils sont pas du tout à leur place, quoi. Je veux dire, il y a des bons joueurs dans toutes les lignes. Trost et Kong en défense, BKO c'est pas mal non plus en défense centrale, Fofana au milieu de terrain, Depaul pour la création. Alors devant, bon, Lasagna, Okaka, bon, c'est fou,
ça. Lasagna, il faut savoir qu'il marque que contre l'AC Milan. C'est son fil rouge de la saison. Chaque saison, il a ce feeling avec le but contre l'AC Milan qui est merveilleux. Mais c'est vrai, oui, il y a quelques bons éléments. Disons que l'Udinese qu'on a connu aussi, hein, tu te souviens, qui est arrivé jusqu'à la Ligue des Champions, elle est encore bien loin et on en avait parlé par rapport au Pozzo et par rapport à Watford aussi en Première Ligue dans un podcast que j'invite à écouter. Mais c'est vrai que l'Udinese maintenant n'est peut-être plus la priorité aussi de la famille dont elle est propriétaire, donc c'est un peu compliqué. Les autres gardiens, j'ai noté Golini aussi,
oui, bien sûr.
Du côté de l'Atalanta.
Grosse progression aussi cette saison, lui.
Bien sûr, Cragno. Alors il y a eu une petite.
Je me permets juste de revenir, Guillaume, quand même deux secondes sur Golini, puisque on parlait tout à l'heure de Strakosha, voir ce qu'il donnerait en Ligue des Champions. Golini, on a vu, il y a eu des très très bonnes choses. Il y en a eu d'autres un peu moins bonnes, notamment dans le jeu au pied, là encore. Mais par contre, on a vu aussi des bons matchs de Golini en Ligue des Champions. Hein. Donc lui, on sent quand même qu'il a pas raté la marche, en fait, tout simplement. Donc gardien à suivre là encore.
Oui, bah oui, totalement. Et après, c'est pas pour rien aussi que l'Atalanta, autant l'Atalanta a un jeu exceptionnel sur le terrain. Je te souviens qu'en défense aussi, elle est très solide, hein, en Serie A. Hein. C'est pas la pire défense, loin de là. Donc voilà, Cragno, Golini, il est aussi beaucoup. Voilà, je parlais de Cragno. Il est très bon gardien aussi à Cagliari. Il y a eu plus de concurrence cette saison avec Robin Olsen, que tu as bien connu à la Roma, Johan. Mais c'est vrai que Cragno aussi a un beau potentiel à suivre et ça peut être un très bon gardien aussi en devenir. J'ai fait une petite note En plus, tu le permets, Johan. Alors, j'ai oublié CP à Parme aussi, qui fait une bonne saison. J'ai fait une petite note en plus pour Radu, au Genoa.
Ah oui.
Tu le sais que c'est un truc qui me pique un peu.
C'est vrai.
Mais c'est vrai, son traitement au Genoa, voilà, où il était quand même où il était titulaire et où il était vraiment, moi, je le trouvais vraiment bon. Voilà, mis à part peut-être deux, trois erreurs qui peuvent arriver à tous les gamins, mais moi, dans son niveau global, je le trouvais très bon, Radu. Et au mercato, voilà, le Genoa a récupéré Payne, l'ancien gardien qui était un doublure à la Juve de Chesney. Voilà, Payne est revenu, il lui a piqué la place. C'est vrai, bon,
Qui
on
était
a vu.
même triplure, hein,
Oui, triplure,
Guillaume,
oui,
parce
c'est
qu'il y a
vrai qu'il y a
Buffon entre
Buffon,
les
oui,
deux.
c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, Radu du coup est devenu doublure de Payne au Genoa. L'agent a souvent confié que voilà, il avait du mal à digérer sa décision. Il a même fini en tribune dans certains matchs. Donc voilà, il y a eu aussi des jeux d'influence dans ce dossier. Et voilà, je trouve ça dommage pour un joueur
Et
comme Radu
maintenant,
qui. Voilà.
il est à part, mais il est même pas titulaire.
Non.
Parce que Zeppé est blessé. Et là, comme ça, je me rappelle plus du nom du. C'est un gardien italien qui a pris la place. Mais Radu est pas titulaire
C'est vrai,
à
donc
Parme.
voilà, moi ça m'a un peu déçu ce traitement du
C'est
Génois
vrai.
pour un gardien quand même qui ne le méritait pas forcément.
Bah, l'année dernière, il a fait une grosse saison. Et on sait que la Roma a longtemps hésité entre Cragno et Paolo Lopez cet été. Et ça s'est fait aussi sur un plan financier, puisque Cagliari réclamait beaucoup beaucoup d'argent pour Cragno. Après, Cragno, le seul truc, c'est qu'il a été blessé là en fait toute la première
Oui.
partie de saison. Et donc c'est pour ça que Robin Olsen a joué. Et tu en as parlé. On peut s'arrêter 10 secondes dessus. C'est que Robin Olsen a fait une très très grosse première partie de saison.
Ouais, surprenante, ouais. Par
Ouais,
rapport à ce qu'on avait vu.
surprenant. Tout à fait dans cette idée de surperformance de l'équipe de manière générale, qui a ensuite un peu décliné au fur et à mesure des semaines, jusqu'à même l'éviction de Marane, de son poste d'entraîneur. Mais c'est vrai que Robin Olsen s'est quand même très bien relancé à Cagliari. Et on verra ce que la Roma en fera la saison prochaine, sans doute le vendre évidemment, mais où il ira, parce que il a pas vraiment la tête d'une doublure en fait, Robin Olsen.
Non, clairement.
Et là, il a montré qu'il avait encore largement le niveau. Guillaume, on a parlé des
Oui, évidemment,
gardiens.
mais dans tous les gardiens, alors j'ai pas
Ah,
cité Chesney, pas, non, j'ai pas cité Chesney parce que je parlais de gardiens aussi italiens, mais évidemment Chesney qui, parfois, ce que je note souvent aussi même sur les réseaux sociaux, c'est que, tu sais, Johan, beaucoup de gens gardent l'image de Chesney d'Arsenal,
bien
voilà,
sûr.
qui n'était pas forcément bon, c'est la vérité, mais en tout cas, maintenant, aujourd'hui, pour ceux qui ne le voient pas, Chesney, honnêtement, a atteint un niveau exceptionnel. C'est-à-dire que pour moi, bon, pour moi et pour tout le monde, pour tous les adeptes de la Serie A, c'est évidemment un des meilleurs gardiens du championnat. Mais il a vraiment un niveau exceptionnel. Il ne faut pas oublier que avant que Buffon parte au PSG et que l'histoire se termine dans un premier temps avec la Juve, Chesney était doublure. Et déjà à l'époque, quand il remplaçait Buffon, il était largement au niveau et il montrait clairement qu'il pouvait passer Buffon et le mettre sur le banc. Voilà, c'est compliqué parce que Buffon, évidemment, avait son poste à la Juve et c'était compliqué de le faire devenir remplaçant. Mais Chesney a vraiment atteint, avec un travail acharné et aussi en côtoyant, bah voilà, un gardien comme Buffon, a atteint un niveau qui est exceptionnel. Et c'est pas pour rien aussi que la Juve, bah, parfois dans des matchs un peu limites, bah, est sauvé aussi par Chesney au-delà de Ronaldo.
Et puis peut-être un dernier petit mot pour notre Samir Handanovic national entre guillemets,
Bien
bah,
sûr.
qui est
Mais ça fait
toujours
des
aussi
années.
fort. C'est
Ça
ça.
fait
On
des
sait
années,
que
des années.
on a quelques personnes qui se jettent sur lui dès qu'il fait une erreur. Ça lui
Ouais.
arrive en gros 2 fois par an, mais moi je le trouve incroyable pour son âge d'être encore aussi décisif, aussi performant, aussi tonique. On rappelle, hein, 35 ans, il aura 36 ans en juillet.
Et il a jamais fait beaucoup de vagues en plus. Hein. C'est vraiment un joueur,
Exactement.
tu vois, qui est vraiment top. Moi, j'ai beaucoup d'admiration à Ibra Manovic.
Exactement. Et puis Handanovic, n'oubliez pas qu'à MPG, c'est une valeur sûre. 2 ans que je l'ai et que ça se passe très bien. Guillaume, on passe à un
Oui.
secteur offensif cette fois-ci. La très belle saison de Luis Alberto. C'est vrai que c'est un peu une constante dans nos podcasts, mais il faut sans cesse le rappeler parce qu'il
Bah
est
écoute,
exceptionnel cette
ouais,
saison.
oui, on parle des choses positives. Alors, qui dit choses positives dit un peu d'élégance, un peu de classe, un peu de beauté. C'est vrai qu'un Luis Alberto regroupe un peu tous ces adjectifs. Ouais. C'est quand même un joueur exceptionnel. Il a connu la saison dernière peut-être les mois plus difficiles. On sait qu'au niveau extra-sportif et aussi par rapport à son contrat, on sait qu'il y a des négociations, alors qu'il pourrait aboutir bientôt, mais voilà, ça lui a aussi pesé sur le terrain. Il n'avait peut-être pas forcément la tête pour. Mais maintenant, cette saison, honnêtement, alors il y a Milinkovic-Savic, il y a des joueurs comme Acerbi, comme Immobilier, et comme d'autres aussi qui sont rayonnants à la zone, mais Luis Alberto, c'est un joueur vraiment, voilà, c'est un joueur régal, c'est un très beau joueur, très élégant, raffiné, 13 passes décisives, 4 buts, c'est vraiment le maître à jouer de Lazio, tous les ballons passent par lui, et il a cette façon de, voilà, tu sais, cette allure, alors j'ai pas envie de le comparer à d'autres, mais tu vois, moi, j'ai les beaux joueurs que j'ai aimés dans mon adolescence, on en a parlé, quand on a fait le 11 historique du Milan, c'est des joueurs comme Rico Sta, qui joue toujours la tête levée, les chaussettes baissées, ces joueurs élégants à voir et qui donnent envie de tomber amoureux du football. Et Luis Alberto, voilà, c'est vraiment ce genre de joueur qui te donne envie, qui te fait comprendre l'essence même du football. C'est un joueur magnifique. Son toucher de balle, ses passes décisives, sa qualité de frappe. Voilà, moi, c'est vraiment un joueur qui me fait aimer le football, qui me réconcilie parfois quand je suis un peu en froid aussi avec le foot. Mais voilà, c'est le joueur qui fait rayonner tout un collectif. C'est-à-dire que le 3-5-2 de Inzaghi a beaucoup varié en fonction des saisons. Voilà, il s'est mué en fonction des interprètes qu'il avait. Et Luis Alberto a su aussi s'adapter aux joueurs qui l'entourent et faire évoluer son jeu. Donc voilà, c'est vraiment un joueur dont je suis éperdument amoureux, Johan, sache-le.
Et d'ailleurs, tiens, je me faisais la réflexion pendant que tu parlais, si tu devais déterminer le meilleur joueur de la Lazio ou le plus important, c'est toujours difficile de dire meilleur quand tu compares les différentes lignes, mais allez, le joueur le plus important de la Lazio cette saison, tu mettrais qui?
Écoute, Milinkovic-Savic était très bon, Immobilier avec tous ses buts, ce serait la facilité. On a parlé de Strakosha peu avant, Acerbi derrière est très solide et il donne une autre mentalité à cette équipe. Mais voilà, vu que je parlais de Luis Alberto, honnêtement, pour moi, c'est vraiment par lui que tout passe. C'est-à-dire que pour moi, c'est le meilleur joueur de la Lazio, même si je te dis, par exemple, un joueur comme Acerbi qui est totalement différent dans son registre, avec ses leaderships et sa hargne, donne aussi un autre visage, et ce visage qui est un peu plus fougueux et plus qui apporte plus de force à la Lazio qu'un joueur élégant comme Alberto. Mais pour moi, c'est le meilleur joueur de la Lazio cette saison, c'est Luis Alberto sans aucun doute, du moins pour moi.
Je suis d'accord avec toi, et c'est là que tu dis que c'est difficile pour Immobilier qui a mis 27 buts en 26 journées. C'est difficile pour lui.
Et c'est vrai que tu vois ce que je veux dire, Luis Alberto, c'est vraiment. C'est rare aujourd'hui les joueurs élégants. Tu sais, les beaux joueurs. Ouais. Et voilà, et évidemment qu'il y a des joueurs comme Messi, et voilà, c'est la facilité. Mais Luis Alberto, voilà, c'est regarder des compilations, c'est pas décisif. Moi, je te dis, il me fait un peu penser, mais de loin, à Ricosta, parce que j'aime pas trop ces comparaisons en fonction des époques. Mais voilà, c'est ce genre de joueur élégant. Que je voulais évidemment mettre dans mes choses positives.
Alors, tu parlais de Rui Costa, donc du Milan. On passe au Milan. Les quelques satisfactions de la saison à Milan. Avant de débuter là-dessus, on peut conseiller à nos auditeurs d'aller sur notre Patreon, puisqu'on a fait le 11 historique de l'AC Milan.
Et il est beau.
Il est magnifique. Rui Costa a été dans les discussions. Vous verrez s'il a été élu dans notre 11 historique de l'AC Milan. C'est sur patreon.com/calcio et PP évidemment. On a fait la Roma et on fera un petit peu tous les clubs au fur et à mesure. Mais revenons à nos satisfactions, Guillaume. Elles sont rares, mais elles sont présentes.
Écoute, c'est vrai que la saison milanaise, pour l'instant, et même si elle reprend, n'est quand même pas très flamboyante. Mais dans toutes les difficultés qu'a pu avoir le Milan, il y a quand même des belles choses. Il y en a plusieurs, on peut déjà dire, en partant de la défense. Théo Hernandez, quand même. Honnêtement, moi, c'est une grosse surprise. Je ne l'avais pas beaucoup suivi en Liga, et je ne vais pas te mentir, j'avais beaucoup d'a priori sur lui, même sur son comportement extra-sportif, aussi avec ce qui s'était passé avec les espoirs français. Donc voilà, l'a priori n'était pas forcément bon, mais en tout cas là, il a su me convaincre, évidemment avec des prestations assez assez bonne. Il a marqué, alors j'ai noté le nombre de buts qu'il a marqué. Il en a marqué 6 buts. Voilà, il a marqué 6 buts cette saison. Donc voilà, c'est l'un des meilleurs joueurs du Milan, évidemment. C'est un latéral très moderne qui monte beaucoup, qui a une qualité de centre très forte. Ça faisait très longtemps. Honnêtement, moi j'avais demandé, j'ai eu récemment, tu te rappelles, Luca Antonini, ancien latéral du Milan. Je l'avais eu au téléphone pour Eurosport et il m'avait dit que pour lui, et c'est pas le seul, voilà, c'était le meilleur latéral gauche depuis Serginho. Mais c'est vrai qu'après Milan, il n'avait pas eu beaucoup de latéral gauche de ce niveau-là. Et c'est vrai que dans sa qualité offensive, dans ce qu'il apporte, dans sa capacité de dribbler, dans les buts, voilà, ça change pas beaucoup de Ricardo Rodriguez. Tu vois, dans le registre, Ricardo Rodriguez qui était vraiment un joueur, voilà, tu vois, il passait pas trop la ligne du terrain, pas beaucoup de propositions devant, et tu vois, c'est tout l'inverse. C'est vraiment l'une des nouvelles idoles des tifosi du Milan. Le petit bémol, et je sais que ça, Ivan, c'est ton fil rouge aussi, c'est parfois son manque de concentration en défense. Voilà, parfois il a aussi quelques oublis. Je sais pas si tu veux rajouter un mot là-dessus, mais c'est vrai que parfois on sent qu'il, voilà, il tergiverse et il a quelques problèmes. On l'a vu d'ailleurs, hein, lors du match face au Genoa, lors du dernier match que Milan a perdu 2-1. Voilà, c'est vrai que parfois il attaque beaucoup et il a beaucoup de qualités. Après, défensivement parlant, parfois c'est un peu plus difficile.
Ouais, non, mais je vais pas rajouter grand-chose parce que j'en avais parlé dans un podcast précédent. Mais oui, moi je suis comme toi, je note sa fulgurance offensive et ses largesses défensives. Voilà, je pense que en implication directe sur les buts pour son équipe, il en est à autant de buts, donc 6, que en implication directe sur les buts encaissés, c'est-à-dire des vraies erreurs qui amènent des buts par son équipe. Donc même chose, je sais pas quel est son pic, c'est dans le sens où je sais pas s'il peut améliorer grandement son travail défensif au sein d'une défense qui est un peu bon, moi qui me fait pas une énorme impression. Il faudrait sans doute des joueurs un peu plus
Ouais,
d'expérience.
disons que parfois le collectif l'aide pas non plus
C'est ça, et puis peut-être aussi un entraîneur, tu vois, plus.
qui le fasse travailler tactiquement aussi. Hein.
Ouais, c'est ça. Donc,
Après, s'il progresse pas tactiquement en Italie, pas comment dire que ça va être compliqué le
oui, bien
reste de sa
sûr.
carrière. Mais voilà, moi j'espère que pour lui, il progressera à ce niveau-là. En tout cas, voilà, c'est quand même la révélation de cette saison du Milan. Une autre jolie note du côté du Milan, c'est Bennacer. On en avait souvent parlé lors de la saison précédente à Empoli. C'était quand même un excellent joueur à Empoli. Il a confirmé à Milan. Après, les débuts difficiles avec Gianpaolo, ça n'a pas été là, toujours simple parce qu'il ne jouait pas beaucoup, il était souvent sur le banc. Bilia lui était préféré. Et c'est vrai que Bennacer, depuis qu'il a trouvé sa place à Milan, honnêtement, mis à part les cartons jaunes qui sont un peu aussi, alors c'est un peu le fil rouge, mais voilà, ça c'est le fil rouge à Bennacer. Mais voilà, c'est un joueur qui sait quasiment tout faire, c'est-à-dire qu'il peut très bien ratisser des ballons, ce qu'il fait très bien, et il peut aussi dicter le jeu, voilà, un peu en chef d'orchestre. Il peut remonter le ballon, il l'a souvent fait cette saison. Voilà, c'est très longtemps que Milan n'avait pas eu un numéro 6 comme ça, parce qu'il joue 6. Est-ce qu'il pourrait jouer relayeur aussi? C'est une idée à laquelle pensait Pioli. Pour l'instant, il a gardé sa place de numéro 6, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs du Milan cette saison. Et enfin, à part Zlatan Ibrahimovic qui est revenu, et donc tout le monde a constaté que le niveau était toujours là. Petite note sur Rebic, qui avait connu une première partie de saison totalement transparente. C'est-à-dire que c'était vraiment, en Italie, on aime bien dire, c'est oggetto misterioso, c'était vraiment un objet mystérieux. Et c'est vrai qu'au fil du temps, lui aussi a trouvé sa place. Il a commencé à enchaîner les matchs, et il a marqué 6 buts, et désormais, il est titulaire indiscutable. Donc voilà, à Milan, c'est une saison compliquée, mais en tout cas, repartir sur une base, tu vois, avec Donnarumma, Théo Hernandez, Romagnoli, Bennacer, Rebic, voir si Ibrahimovic va rester. Enfin, tu vois, il y a quelques bons éléments, on va dire une colonne vertébrale sur laquelle tu peux un minimum t'appuyer pour la suite.
On passe au point suivant qui est l'adaptation de Paolo Fonseca à la Roma. Guillaume, qu'est-ce qui t'a
Oui.
séduit sur les débuts de Fonseca à la Roma?
Alors écoute, je sais que j'en ai parlé ensuite, mais en tout cas, moi, Fonseca, pardon, moi, Fonseca, ce qui m'a plu, C'est que, alors, ces dernières saisons, alors, la Roma a connu l'entraîneur de Ranieri qui a fait le petit intérim l'année dernière. Il y a eu Rudy Garcia, il y a eu Di Francesco. Et c'est vrai qu'à un moment, alors j'espère que ça n'arrivera pas à Fonseca, mais à un moment, il y a toujours une rupture avec les supporters, même avec la presse. Et Fonseca, j'ai l'impression vraiment qu'il fédère tout le monde. Alors, tu me diras si je me trompe, mais voilà, j'ai l'impression que son projet de jeu et ses idées et sa capacité à s'adapter au club romain, qui n'est pas simple, pardon. Donc, voilà, c'est tout cet ensemble-là voilà, m'a convaincu, au-delà de la bonne première partie de saison qui a été faite du côté de la Roma, moins la deuxième après le mois de janvier. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression qu'au-delà des résultats, la personnalité de Fonseca, voilà, plaît et fédère autour de lui. J'ai regardé récemment l'interview de Francesco Totti sur Sky, où ils m'ont fait la question en disant, bah, voilà, qu'est-ce que vous pensez de Fonseca? Totti qui n'est plus dans le club, hein, on le rappelle. Bah, Totti a dit, bah, de tous les retours que j'ai depuis Trigoria, donc le centre d'entraînement de la Roma, tous les retours sont bons. C'est-à-dire que tous les joueurs voilà, sont avec Fonseca et malgré les difficultés qu'on a pu voir sur le terrain, bah, Fonseca, la personnalité et ce qu'il propose et son projet a convaincu tout l'ensemble du club, président, dirigeant, joueur, supporter aussi. Et voilà, moi c'est pour ça que je voulais dire que le mariage, la Roma a tout fait pour l'avoir, il a payé la clause, hein, il me semble, pour l'avoir. Voilà, c'est une bonne pioche et la première saison, on verra bien s'il atteint la Ligue des Champions et la qualification, mais en tout cas, la personnalité de Fonseca, bah, moi, m'a convaincu et visiblement a convaincu aussi la Roma.
Alors, je suis dans l'ensemble d'accord avec ton analyse. Moi, la seule chose, puisque tu as commencé à en parler, c'est que ça avait très bien commencé aussi avec Rudy Garcia.
Oui, oui.
Ça avait très bien commencé avec Di Francesco. Il y avait l'unanimité aussi. Et tout se passait bien. Garcia a été quand même renommé le roi de la com par pas mal de médias italiens qui soulignaient la justesse de ses propos après les matchs, la justesse d'analyse et aussi la justesse du tempo, quand dire les mots, quand féliciter ses joueurs, quand les titiller un peu, etc., avant que ça parte un peu dans tous les sens. Donc l'idylle est là. Ouais, mais évidemment, parce que je connais trop ce club et je sais que ça peut aller dans un sens très vite, mais aussi très vite dans l'autre. Je suis d'accord dans l'ensemble. Après, il faut pas oublier que globalement, si c'est difficile de se projeter et de dire que la saison serait terminée comme ça, on ne sait pas quand elle va se terminer, si elle va se terminer ou quoi que ce soit, mais il serait quand même hors du top 4. Il y aurait eu de très grandes chances qu'il soit hors du top 4 à la fin de la saison. Donc le premier objectif, il n'était pas atteint. Après, il y a évidemment, comme toujours, et on l'explique depuis le début de la saison, c'est comment tu veux évaluer le travail de l'entraîneur avec 50 blessés par an, quoi. Enfin, avec 50 blessures par an. Et Paolo Fonseca en a parlé dans une interview à Roma TV, là, ces derniers jours, en disant, moi, j'ai jamais vu ça, quoi. Et pour lui, c'était une vraie difficulté à gérer parce que, concrètement, si on doit regarder sur tous les matchs de la saison, le nombre de fois où il y a eu le même 11 deux fois d'affilée, je suis même pas sûr que ça soit arrivé une seule fois. Donc c'est compliqué. Quasiment tous les joueurs se sont blessés. Parfois, c'est quasiment tout le milieu de terrain qui était absent et il a dû bricoler en mettant des défenseurs centraux au milieu, etc. Donc, il y a des bonnes choses. Je note quand même sa faculté d'adaptation par rapport à ses idées au départ où lors des deux premiers matchs, la Roma prend beaucoup de buts et il change un peu son fusil d'épaule en jouant un peu plus défensif et un peu moins haut. Disons que tu sais le fameux baricentro qu'on a tout le temps dans la Gazzetta avec les petits schémas, mais à reculer 10 mètres en fait quasiment entre ces 2-3 premiers matchs et la suite de la saison. Donc on verra. Écoute, il y a beaucoup de choses que j'aime bien dans la première partie de saison de Fonseca, comme je les aimais bien avec Rudy Garcia et je les aimais bien avec Di Francesco. Donc je reste
là où c'est vrai, ouais, on a souvent parlé, c'est que Rome est une ville où tout peut être blanc le lundi et blanc le mardi, donc évidemment que rien n'est acquis pour Fonseca. Après, entre parenthèses, sur Sky en ce moment il repasse les matchs de la Roma, j'en suis quelques-uns et j'ai envie de dire quand même que la Roma de Garcia, alors la première Roma de Garcia, tu sais, celle qui enchaîne les victoires,
les 10 matchs de les 10 victoires d'affilée.
J'ai vu le Inter Roma 3-0 hier soir, c'était ouais. C'est ah ça non, m'a fait mais... rire parce que avec le temps, Garcia aujourd'hui a une réputation qui est pas très bonne, surtout en France. Mais tu vois, cette Roma-là, ce match-là, alors j'ai pas le souvenir de tous les matchs, mais tu les auras peut-être plus que moi, mais c'est vrai que cette Roma-là, voilà, elle était vraiment totalement. Regarde ça, tu voyais des Rossi qui le prenaient dans ses bras, il y avait Totti, Florenzi, Nainggolan, enfin, voilà, c'était vraiment une équipe, et l'équipe de Garcia était vraiment. Voilà, juste une petite parenthèse, mais voilà,
Non,
j'ai
mais
regardé ça
t'as.
hier soir et ça m'a vraiment. Déjà, je me rappelais pas que ça avait vraiment été aussi intense.
Tu as tout à fait raison. Et mais tu sais, quand Garcia a signé à Lyon ou même avant à Marseille, t'en as quand même qui t'expliquaient que ça avait été un flop total à la Roma. Garcia, bon, des gens qui suivent pas trop la Serie A, évidemment, ou qui ont des problèmes avec.
Il a pas perdu un derby, hein, il me semble,
Non,
moi,
non, il n'a
c'est
pas perdu
normal.
de derby. Et puis, non, mais il y a plein de souvenirs, hein, des victoires contre Naples, contre l'Inter, contre la Lazio aussi, évidemment.
Le
Il
violon
y a
contre
deux.
la Juve.
Oui, le violon contre la Juve. Bon, ça, c'était pas une victoire, mais le violon contre la Juve. Et
C'est
non,
pas le
il y a
match.
beaucoup des victoires contre la Juve et aussi en coupe ou en championnat. Donc, non, non, il y a de très bonnes choses de Garcia. Et moi, je le dis sans problème, en termes de jeu pur et de spectacularité, pardon. La première saison de Garcia est sans doute, je suis en train de réfléchir très rapidement, mais sans doute la meilleure saison des années 2010 de la Roma, en termes de jeu et de spectacularité, sans trop de difficultés. Et encore, c'était pas un effectif aussi flamboyant que d'autres ont eu par la suite ou avant. Il y avait quand même des joueurs comme, bon, c'était des bons joueurs, mais Balzaretti,
Oui,
Gervinho,
oui, oui, oui. Non, il y en a un du
c'est
bois.
Ljajic, il avait inventé Florenzi ailier droit. Enfin voilà,
Non, mais tu
c'était
vois,
pas non plus
c'est
exceptionnel.
intéressant de voir en ce moment, on a plus le temps dans des vieux matchs. Quoi. Enfin, j'avais par exemple oublié que Spalletti, hein, j'ai revu la Roma des années 2006-2007. J'avais oublié que Spalletti était resté, alors aussi longtemps, il n'est pas resté 15 ans à la Roma, mais il avait quand même
Alors
fait aussi.
là pour le coup, sur les 20 dernières années, c'est sans doute dans les saisons de
Oui.
Spalletti que tu trouves le truc le plus beau, le plus abouti en termes
Totalement.
de jeu, avec une ou
Totalement.
deux saisons de Capello aussi quand même, dont celle qui aboutit au titre. Mais en gros, si tu dois faire un top 5 de saisons de la Roma sur les 20 dernières saisons, tu dois en avoir deux de Capello, deux de Spalletti et une de Garcia, je
Et
pense.
c'est marrant que Totti, alors je sais pas si vous avez vu la déclaration, qu'il y avait eu deux Spalletti. Il y a eu le premier qui était comme un père, le deuxième qui était moins.
C'est ça.
Visiblement, c'est vrai qu'il y a eu deux Spalletti, mais voilà, c'est intéressant en ce moment aussi voilà, c'est une petite parenthèse. Sur la Roma, j'avais revu des vieux matchs et voilà, je voulais redonner du crédit à Rudy Garcia.
Mais tu as bien fait parce que les gens sont assez peu nombreux
Oui, et ils oublient
voilà,
tout,
c'est
ouais.
ça. Ou soit ils oublient, soit ils inventent, c'est au choix. Guillaume, on passe au huitième point. Conte et Lukaku à l'Inter, le mariage réussi.
Exactement. Alors, il y en a un qui m'a plus surpris que l'autre, c'est Lukaku. On a aussi parlé dans le podcast de plusieurs reprises, mais bon, comme là, c'est un peu un résumé des choses positives, Lukaku fait partie. C'est vrai, quand il arrive à l'Inter pour 80 millions d'euros, bon, tu t'es en droit, et notre ami Stéphane Touchaud de l'AFP aussi s'était posé la question. C'est vrai que voilà, Lukaku, de ce qu'on voyait à Manchester, parfois, bon, on avait un a priori aussi un peu. D'une faiblesse, certaines faiblesses techniques et beaucoup de ratés, et tu es en droit de te demander si l'investissement est bon. Le seul point moi, qui me rassurait un peu dans ce mariage entre Lukaku et Inter, c'était Conte, et j'en parlerai après, c'est que Conte l'a toujours voulu, et que si Conte l'a toujours voulu, c'est qu'il y avait une raison, et Conte, cette capacité à sortir le meilleur de chaque joueur, et c'est ce qui se passe avec Lukaku. Clairement, le mariage entre les deux est parfait. C'est pour ça aussi que je parle de Conte. Voilà, le mariage Lukaku-Inter-Conte est parfait. Et Lukaku, c'est quand même 17 buts en 25 matchs. Alors, il y a toujours ce petit bémol de bah, il marque pas dans les grands matchs. C'est vrai que parfois, voilà, on a tendance à pas trop le voir. C'était un peu le cas contre la Juve aussi, lors du dernier match à huis clos, perdu 2-0. Mais Lukaku, moi, m'a beaucoup surpris. Évidemment, il y a son duel avec Lautaro Martinez qui est très bon. Et même si Lautaro récemment a eu un petit coup de mou,
C'est vrai.
ouais, il a un peu, ouais, il était moins bon. Et ben Lukaku quand même a toujours porté l'Inter et il assume aussi dès sa première saison un rôle de leader sur le terrain et en dehors. Et par exemple ce geste tout bête mais assez symbolique, tu te rappelles sur Esposito, son premier but sur penalty. Voilà, c'est pas grand-chose mais ça montre aussi à quel point Lukaku est intégré à l'Inter. Et un autre point, c'est aussi tout bête, mais c'est symbolique, c'est l'italien. C'est-à-dire qu'il parle italien, mieux que d'autres. Il a rapidement appris la langue et ça montre aussi son exemplarité et à quel point il est professionnel dans tout ce qu'il fait. Et c'est vrai que Lukaku, là-dessus, moi je dois avouer m'être trompé, je ne pensais pas qu'il pouvait autant être influent sur le jeu que comme il l'a été. L'autre point,
Nous sommes deux,
et
Guillaume.
ouais, bon, on est deux. Bon, bah, parfait. Je ne sais pas si c'est quelque chose à rajouter sur Lukaku ou
Non, non, non,
si.
tu l'as très bien fait, donc rien
Bon,
à
bah,
rajouter.
parfait. Écoute, et l'autre point, alors là, moins surprenant, ce Conte, voilà, moi j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour cet entraîneur. Voilà, ça fait partie du projet de l'Inter, c'est-à-dire que l'upgrade entre Spalletti qui a ramené l'Inter pour 2 ans Ligue des Champions, et le voisin milanais très bien d'en prendre bonne note, mais l'Inter a pris Spalletti après avoir beaucoup testé. Spalletti a ramené l'Inter parfois à la limite en Ligue des Champions. Et le niveau supérieur, c'est prendre Conte, qui va te faire passer ce fameux gap pour te battre pour le titre. C'est le cas, même si bon, maintenant c'est un peu compliqué, mais en tout cas, l'arrivée de Conte a quand même ramené l'Inter dans les hauteurs du classement. Et on l'a vu rapidement. Alors, il y a aussi cette tâche en Ligue des Champions, cette élimination, malgré les bonnes premières mi-temps à Dortmund, à Barcelone. Alors Conte avait justement des déclarations, et voilà, d'après match, on avait parlé, il avait un peu rejeté la faute sur Marotta, c'est son côté aussi un peu, voilà, à moi qui me plaît moins et je sais qu'à toi aussi. Mais ses mécanismes, sa mentalité de gagnant, il a rapidement inculqué à l'Inter à ses joueurs, et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, bah, l'Inter est revenu dans les hauteurs de la Serie A, c'est-à-dire que probablement elle ne gagnera pas le titre, mais en tout cas, cette année, elle s'est battue. Elle a lutté avec la Juve, qu'elle a dû aussi. Mais voilà, moi j'aime bien le projet qui a été amené à l'Inter et Conte pour moi, voilà, c'était la cerise sur le gâteau. Alors, une cerise assez chère, hein, parce que le salaire que touche Conte, c'est pas une cerise. Mais voilà, Conte, le mariage est réussi, ça me surprend moins que Lukaku, parce que bah, c'est un grand entraîneur. Et quand on prend un grand entraîneur, bah, c'est tout de suite, tu sais dans quoi tu vas et tu sais que bah, le projet peut être gagnant à un certain moment. C'est sa première saison. On va lui laisser le temps. On va voir les joueurs qui vont être recrutés par la suite. Mais en tout cas, quand tu vois, alors c'est pareil, je parlais de la Roma, j'ai vu des vieux matchs de l'Inter. Bah, tu vois, encore pas si longtemps, bah, l'Inter avait De Bruyne, avait Stramaccioni, avait Pioli. Voilà, et aujourd'hui, bah, l'Inter a compté et elle lutte pour le titre. Donc, même s'il n'y aura pas de coupe au bout, bah, le mariage Conte-Inter et en parallèle bah, Lukaku ne serait jamais venu évidemment sur la Ligue des Champions et probablement sur Conte. Voilà, ça montre que le projet est cohérent et que bah, l'Inter, petit à petit, revient où voilà, on a le du classement et où elle avait l'habitude d'être moins ces dernières années.
On passe à notre neuvième et avant-dernier point, c'est le rêve éveillé de Dejan Kulusevski. Alors je vais m'atteler à la tâche suédoise, Guillaume. Après
Attends-toi.
seulement 6 mois à Parme en prêt, il a quand même été cédé par l'Atalanta à la Juve contre, de mémoire, c'est 35 millions d'euros, je crois,
Oui,
Guillaume, avec des bonus en
exactement.
plus. Alors c'est un joueur à l'aise sur le côté droit, mais aussi qui peut jouer en numéro 10. C'est comme ça qu'il a été formé et c'est comme ça qu'on l'a vu en Italie, puisque il était numéro 10 souvent régulièrement avec la Primavera de l'Atalanta avant de passer ailier droit dans l'équipe de Parme, une équipe de Parme qui est, on l'a souligné plein de fois, Guillaume, très ennuyeuse, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que d'avoir un joueur aussi élégant, aussi intéressant, créatif, bah, ça nous donne quand même de temps en temps envie de regarder cette équipe de Parme. Alors, ce qui saute aux yeux, j'ai commencé à en parler, c'est ses qualités techniques, c'est le fait que ce soit un bon dribbleur, qui a une très bonne première touche de balle, qui accélère facilement ballon au pied, qui a une bonne frappe, une bonne vision du jeu. Donc, ça fait un numéro 10 parfait. Mais en fait, il a aussi, ce qu'il ajoute à ce profil-là, c'est des grosses capacités athlétiques. Et j'avais interviewé Maurizio Costanzi, qui est le responsable de la formation de l'Atalanta lorsque Kulusevski a été cédé à la Juve, et, entre guillemets, puisque c'était pour cet été, sachant qu'il restait en prêt à Parme pour la deuxième partie de saison. Et Costanzi m'avait raconté qu'ils avaient fait des tests physiques avec lui lorsqu'il jouait dans la Primavera, comme dans toutes les équipes de l'Atalanta, et en fait, ils avaient comparé ses résultats avec ceux des joueurs de l'équipe première. Et en fait, il était au-dessus de tout le monde, en capacité VMA, en capacité à répéter les efforts, en effort à haute intensité, etc. Il était au-dessus de tout le monde. Quand on connaît Certains joueurs de l'Atalanta et leurs capacités athlétiques comme Gosens, comme Attebourg, comme Timothy Castagne, comme Freuler, etc. ou Martin de Roon, c'est quand même, ou Papu Gomez aussi, c'est quand même très très costaud qu'il soit devant eux. Donc il a à la fois les qualités techniques, les qualités physiques. Et donc c'est vraiment un joueur très intéressant qui sera à suivre. Il est très à l'aise. J'avais interviewé aussi un de ses formateurs en Suède qui m'avait dit qu'il était très à l'aise quand il était un peu libre et qu'il fallait surtout pas le restreindre tactiquement sur le terrain en lui demandant de redescendre trop bas et qu'il fallait absolument le laisser créatif dans le dernier tiers de terrain adverse. Donc on verra comment la Juve va l'utiliser. C'est un peu une ouverture ce point-là au prochain mois puisque la saison prochaine il sera à la Juve. Comment il va être utilisé, est-ce que Sarri va continuer avec son 4-3-1-2 où il mettait Dybala souvent numéro 10 ou parfois Ramsey, et donc là il pourrait mettre Kulusevski. Est-ce qu'il va passer en 4-3-3 avec Kulusevski sur le côté droit, puisque malheureusement Douglas Costa n'est pas, on peut pas trop compter sur un joueur qui est aussi fragile sur toute la durée d'une saison, ce qui permettrait de retrouver son système de jeu favori, parce que parfois c'est un peu bancal son système très axial en 4-3-1-2. Donc on verra ce qui va se passer pour Kulusevski, mais sa première saison est vraiment très intéressante et même totalement surprenante, puisqu'on s'attendait pas à le voir exploser comme ça. Et très honnêtement, l'Atalanta s'attendait pas non plus à le voir exploser et s'attendait surtout à le voir revenir cet été pour ensuite être dans l'effectif, mais devant une proposition aussi forte que celle de la Juve, ils ont cédé et ils font une énorme plus-value sur un joueur au final qui n'aura jamais joué en équipe, qui aura fait 3 apparitions je crois en équipe première avec l'Atalanta. Guillaume, on passe à notre... Tu veux rajouter quelque chose sur notre...
Non, t'as été très concis.
On passe à un autre joueur qui nous a fait très 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 plaisir cette saison. On avait souligné un petit peu la saison passée ses éclairs de génie, mais qui restaient parfois un peu trop rares, entre guillemets, parce que il était un petit peu inconstant. Oui. Et il avait du mal à être aussi régulier qu'explosif sur quelques matchs. Là, il est beaucoup plus cette saison. Il est devenu beaucoup plus complet aussi, beaucoup plus régulier, beaucoup plus fort. C'est notre ami Jérémy Boga à Sassuolo.
Écoute, est-ce que tu es d'accord? Moi, j'ai noté saison de la confirmation. Oui. Voilà, tu vois, moi, je pense que cette saison, elle a vraiment passé.
Ou peut-être même de l'explosion définitive.
Exactement, tu vois, il a vraiment corrigé tout ce qu'on a pu lui reprocher avant. D'ailleurs, on sait qu'il nous écoute et on le remercie. Mais c'est vraiment sa meilleure saison, sa solo. Il a corrigé, comme tu as dit, ses problèmes d'inconstance. Parfois, dans certains matchs, il était un peu plus discret. Et ça, avec cette saison, il explose. On va évidemment répéter ses capacités d'accélération, ses dribbles. Quasiment tous ses buts sont un régal à voir. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est banal. Il réalise toujours des buts venus d'ailleurs. Et voilà, c'est aussi cette saison l'un des meilleurs joueurs de Serie A. Et il a marqué, je vais retrouver dans mes notes, il a marqué 8 buts en 25 matchs. Donc voilà, moi je pense que cet été, probablement, c'est que le Napoli le suit de près. Et il y aura d'autres clubs, à mon avis, qui vont tenter le coup. Mais s'il passe aussi ce cas dans un autre club, ça pourrait être très intéressant. Mais les qualités sont là, la personnalité est là, parce qu'on voit aussi que c'est une personne visiblement qui a la tête sur les épaules et qui est conscient aussi de ses qualités, de ses faiblesses. Et pour moi, aujourd'hui, peut-être que la saison d'avant aurait été trop tôt, que tu vois, maintenant, je pense qu'il a tout donné à Sassuolo. On voit clairement qu'il a le niveau pour aller plus haut. Et voilà, moi, je suis curieux maintenant de voir le choix qu'il va faire pour l'été prochain. Il faudra voir aussi ce que réclame Sassuolo. Je pense qu'on tournera autour des 20 à 25 millions d'euros. C'est le prix plus ou moins que fait la presse italienne.
Mais, à voir ce que voudra faire Chelsea aussi. Hein.
Chelsea, évidemment. Une option, qui a une option, c'est vrai aussi. Mais là, on rappelle aussi que c'est le meilleur dribbler de Serie A au niveau des statistiques. Donc, Boga, c'est vraiment un joueur exceptionnel, en grand devenir. Il est encore jeune, donc le club qui le prendra, dans tous les cas, fera une excellente affaire. Évidemment, il est idéal pour un 4-3-3, pour jouer sur l'aile. C'est clairement son poste. Il ne faudrait pas non plus qu'il dénature en tentant quelque chose d'autre. Mais forcément, il avait sa place pour dans notre podcast des choses positives, dans le deuxième volume. Mais voilà, moi c'est vraiment un joueur, et je sais que tu l'apprécies beaucoup aussi, c'est un joueur qui est un régal à voir, allez, ça me fait penser aussi un peu aux ailiers d'avant, qui, tu sais, moi j'ai connu, moi j'ai beaucoup d'affection pour un joueur, alors malheureusement qui s'est un peu perdu, qui est blessé actuellement, c'est Deulofeu. Voilà, qui au
D'accord.
Barça aussi, ouais, qui s'est un peu perdu. Alors il est à Watford, il me semble, en première
Je
ligue.
crois bien, oui.
Ouais, donc là il est blessé, mais c'est un peu ce genre de joueur-là. Mais Boga, voilà, pour moi, pourrait être même encore meilleur. C'est-à-dire qu'il a toutes les capacités pour devenir une référence à ce poste-là. Et j'espère que le club qui le prendra cet été, parce que je pense qu'il partira, le club qui le prendra fera une affaire en or, probablement, pour sa saison prochaine.
Alors on le rappelle, hein, il n'a que 23 ans, il vient d'avoir 23 ans. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Guillaume, mais j'ai l'impression, parce que tu le sais, Sassuolo, c'est une des équipes que je regarde le plus, et c'est sans doute depuis 2 ans l'équipe que j'ai peut-être le plus vue sur le terrain à la télé. J'ai l'impression qu'il y a eu un espèce de déclic de responsabilité en fait cette saison, où en fait il prend plus facilement le ballon, il attire beaucoup plus le ballon, il n'hésite pas en fait, quand tu dis il se cache moins cette saison, c'est... Je le vois un peu comme ça, en fait. J'ai l'impression qu'il prend beaucoup plus ses responsabilités. Peut-être qu'on les lui a données aussi. Peut-être qu'on lui a demandé d'en prendre beaucoup plus
De
que la
Zerbi, hein,
saison
ouais,
passée.
peut-être.
Exactement. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que on sait le style de Zerbi, que c'est une équipe qui veut avoir le ballon, la possession, qui redouble les passes, qui a beaucoup de circuits très précis et très marqués dans la circulation du ballon. Et en fait, ils avaient déjà un ailier fort qui est Domenico Berardi, mais en fait Berardi pour moi c'est un faux ailier dans le sens où c'est un ailier organisateur qui pourrait quasiment être numéro 10 et de toute façon il
C'est pas un
repique
lieu de
souvent dans
rupture.
l'axe. Voilà exactement. Et alors que Jérémy Boga est un ailier dynamiteur entre guillemets de défense, c'est-à-dire que c'est par l'accélération, le dribble, la percussion, la provocation et en fait l'alliance des deux est très intéressante parce que c'est un profil que Sassuolo n'avait pas. Et ça rend l'équipe un peu moins prévisible, parce qu'elle arrivait à un moment donné à devenir un peu trop prévisible dans ses schémas offensifs. Et notamment, en début de saison, en fin de saison dernière, tu sais, le côté fort, Berardi Lirola avait perdu un peu d'influence. Et il l'avait donc plus du tout cette saison, puisque Lirola est parti à la Fiorentina. Mais voilà, je trouve que c'est un profil très intéressant et pour parler de son avenir, j'espère surtout qu'il ira dans une équipe qui le fera jouer. Parce que tu sais, on parlait du Napoli et enfin, j'ai pas envie.
Pour lui, ouais.
Ça serait dommage que ça fasse un peu comme tous les joueurs de clubs de seconde zone, entre guillemets, c'est pas du tout négatif quand je le dis, de Serie A qui ont été à Naples. À un moment donné pour renforcer l'effectif, mais en fait pour renforcer le banc essentiellement, tu sais, les Pavoletti et compagnie qui ont signé, les Rogue, etc., les Diawara qui venaient de Bologne, et qui au final ont jamais trop eu leur chance, qui tombaient sur un Sarri qui faisait pas trop bouger son équipe, etc. Donc vraiment pour lui, ce qui va être important, ce sera de trouver le club qui le fera jouer, qui lui permettra de passer encore un palier parce que à la limite il vaut mieux rester une saison de plus à Sassuolo en étant un leader que d'aller dans une équipe et d'être le 15e ou 16e homme en
Totalement.
termes de progression, ça sera évidemment pas la même chose. Voilà Guillaume sur Jérémy Boga, ça boucle notre
Oui.
podcast, notre volume 2 donc des choses positives. On s'était dit quand même que ça serait bien de parler un peu de choses positives en ces temps compliqués, en ces temps de coronavirus, de confinement et de mauvaises nouvelles chaque jour. On espère que ça vous a plu. On vous conseille une nouvelle fois de nous rejoindre sur Patreon, patreon.com/calciopp pour du contenu supplémentaire, des hors-séries notamment. On a fait des 11 historiques. Là, on est dans notre série de 11 historiques avec le Milan, la Roma et bientôt un prochain. On est évidemment, comme d'habitude, hein, sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram.
Les 5
Un petit
étoiles.
les 5 étoiles sur Apple Podcast, évidemment, qui sont très importantes. On est aussi sur Spotify, sur Deezer, sur Podcast Addict, enfin bref, à peu près partout. On vous remercie de votre confiance. On a passé d'ailleurs, tiens Guillaume, les 100 notes. On est à 102
Oui,
notes
c'est vrai.
sur Apple Podcasts avec 98 5 étoiles. Donc, on remercie les gens qui nous ont
Mais qui sont
témoigné,
donc les deux qui n'ont pas mis 5 étoiles. c'est là qu'il a la vraie question.
C'est ça. Mais en tout cas, on les remercie vraiment.
Oui.
Et puis, on se donne rendez-vous assez rapidement pour un prochain podcast qui se fera. Alors, en parlant de podcast gratuit et pas sur Patreon. On n'a pas encore le sujet, ça dépendra aussi de l'évolution dans les prochaines semaines, hein, Guillaume, de ce qui va se passer au niveau du foot italien et surtout oui. de l'Italie déjà de manière générale, qui aura des conséquences sur le sport en Italie. Mais si on est dans la logique fin avril, début mai, toujours sans football, on aura sans doute un petit podcast mercato qu'on vous prépare avec pas mal de
choses. Disons que la tendance varie chaque jour en Italie, donc pour l'instant, l'important est ailleurs évidemment que la Serie A. L'important, c'est le pays. Et ensuite, évidemment, le football passera après. Mais la tendance actuelle veut qu'on arrive vers une reprise qui serait peut-être vers la mi-mai, fin mai. Mais pour l'instant, j'ai envie de te dire, on continue quand même de naviguer à vue. Et ça me paraît encore trop tôt pour se projeter sur une éventuelle reprise. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est restez chez vous. Attendons.
Exactement.
Et nous, on vous accompagnera dans tous les cas. Mais l'important... en ce moment, c'est de rester chez soi, de ne pas bouger, d'écouter Cacio et Pépé avec un verre de Prosecco, de Spritz.
De limoncello.
Ou de limoncello, avec modération, évidemment. Mais voilà, il faut rester chez soi. On ne le répétera jamais assez de notre petite place, de ce qu'on peut faire. Tout ce qu'on vous demande, c'est de rester chez vous et de nous écouter si vous en avez envie.
Et comme le dit la formule consacrée, l'important... c'est de rester chez soi et non pas les 3 points. Merci Guillaume, on se retrouve donc rapidement, merci à nos auditeurs et auditrices, on se retrouve rapidement pour un nouveau podcast Calcio e Pepe. À très vite.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.